et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, le Seigneur est mené au désert et nous qui sommes chrétiens, nous voulons nous suivre le Christ. J'allais dire, nous ne voulons pas nous identifier, nous sommes identifiés au Christ, nous les chrétiens, nous avons été baptisés en lui. Et nous voulons, une fois de plus, entrer au désert, c'est-à-dire entrer dans un combat spirituel, car nous avons un ennemi, et c'est le mal. Tout d'abord, un combat de 40 jours. Je pourrais vous faire une longue liste des 40 jours dans la Bible, je vous en donne juste quelques rappels. Ils sont très nombreux. 40, c'est le temps pour se refaire. C'est 40 ans, évidemment, au désert, où le peuple n'a pas trouvé la terre promise parce qu'il n'était pas fidèle. 40 jours pour découvrir une exploration de la terre promise. 40 ans, c'est le règne de David. 40 jours, c'est le nombre des jours d'Élie dans le désert. 40 jours, c'est le nombre de jours pour Ninive, avec Ézéchiel, pour se convertir. 40 jours, vous voyez, c'est pas un hasard si notre Seigneur passe 40 jours au désert. 40, c'est un chiffre humain. C'est le chiffre où on recommence. Et effectivement, nous voulons recommencer, nous allons de commencement en commencement, ne vous inquiétez pas que vous ayez 15, 20, 50, 60, 70 ans, 80 ans. Eh bien oui, il n'y a pas de gros malins en matière spirituelle, en matière de sainteté, il n'y a que des débutants et nous voulons recommencer. Si nous étions plus que des débutants, nous serions sûrement pleins d'orgueil et nous savons que ce n'est pas le bon chemin. Voilà donc ce combat qui recommence une fois de plus. Et ce combat, il se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Vous le savez, le bien et le mal ne passent pas entre les gens. Le bien et le mal passent au centre de mon propre cœur. C'est un combat intérieur que je livre. Et ce combat se concrétise dans ce qu'on appelle la tentation. Et si le Seigneur a voulu connaître les tentations, c'est pour emmener notre nature humaine, nous emmener avec lui dans ce combat. Alors lui n'a pas succombé. La tentation, elle a trois niveaux, trois degrés, dit saint Grégoire le Grand en commentant cet évangile. Elle a la suggestion, la délectation et le consentement. Je m'explique plus pratiquement. Il y a trois degrés, voir, discuter, vouloir. Par exemple, mercredi dernier, c'était jeûne et abstinence dans l'église. Vous étiez invité à jeûner et à vous abstenir de toute fioriture alimentaire notamment. Et peut-être êtes-vous passé devant une boulangerie, pâtisserie, et vous avez vu un gros Saint-Honoré. Vous voyez, je fais local, mais ça pouvait être autre chose. Bref. Et, eh bien, vous avez vu cette grosse pâtisserie qui vous faisait de l'œil. Vous n'avez pas péché. Hein ? C'est la suggestion. Mais peut-être vous êtes-vous arrêté un instant en vous disant « Ce Saint-Honoré a quand même une bonne tête, et puis il n'est pas si gros que cela. » Et puis, je suis un bon chrétien quand même, puis j'ai déjà fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, je le mérite peut-être quand même. C'est la discussion, la délectation du péché. Mais ce n'est pas encore le péché. Le péché arrive seulement quand vous consentez, c'est-à-dire quand vous voulez le mal que vous contemplez avant de le réaliser. J'ai pris un exemple assez léger, mais vous pouvez faire ça avec tous les actes. Notre Seigneur connaît la suggestion que lui présente le diable, il ne va pas aller plus loin, c'est déjà un indice de combat, il ne discute pas tellement avec le diable, il lui répond des passages de l'Écriture. Voilà donc notre ennemi, le diable qui a beaucoup de noms dans l'Évangile et dans l'Écriture en général, diabolos ici qui est utilisé, c'est diviseur, c'est celui qui cherche à nous séparer les uns les autres, à vous diviser dans une famille, dans une paroisse, entre amis, dans une entreprise. Ici, c'est celui qui va essayer de diviser le Christ, c'est-à-dire de le séparer de sa mission, de séparer sa nature humaine de sa nature divine, de le laisser se repaître de sa faiblesse, d'une faiblesse humaine qu'il n'a pas. Pourquoi ? Et c'est la première bonne nouvelle de ce soir, le diable ne connaît pas l'intérieur de notre cœur, pas plus celui du Seigneur que le nôtre. Le diable, pour réel qu'il soit, ne pénètre pas le cœur d'une âme consacrée. Il peut tourner autour, comme le dit l'Écriture, il peut rôder comme un lion qui cherche à dévorer sa proie. Il n'entre pas à l'intérieur d'un cœur consacré à Dieu. Or, vous êtes des consacrés du Seigneur, vous avez, par votre baptême, été livré au Christ pour être donné au Père par l'Esprit Saint. Oui, le Seigneur va rejeter loin de lui le diable, tout simplement, j'allais dire, en citant l'Écriture. À chaque fois, il ne va pas entrer en discussion véritablement, il va lui opposer immédiatement une parole de l'Écriture, et qui plus est, cette parole est tirée du Deutéronome, les trois paroles qu'il lui dit sont tirées du Deutéronome, c'est-à-dire de la loi donnée par Moïse, c'est-à-dire de l'orientation qui nous est donnée pour nous sauver du mal. Voilà pourquoi les chrétiens, et saint Paul le dit dans la deuxième lecture, en méditant l'Écriture, en écoutant la parole de Dieu, en la faisant nôtre, en l'ayant sur dans notre cœur, sur nos lèvres, eh bien nous avons la défense absolue contre le mal. Si nous nous livrons et méditons l'Écriture, nous avons le moyen de nous détourner du mal. Voilà le secret que nous livre ici le Seigneur. Il ne discute pas avec le mauvais, avec le méchant, avec le Satan, c'est-à-dire l'adversaire, c'est-à-dire l'accusateur, c'est tous les noms qu'on leur donne, qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'à la fois il nous tente, à la fois il nous accuse, et à la fois il est notre adversaire. Non, nous voulons vivre de Dieu, loin de tout mal, et rejeter en tout cas de notre cœur ce mal contre lequel nous avons malheureusement quelques accointances. Voilà pour ce désert. Croyez bien que le désert auquel nous sommes convoqués, c'est un combat personnel, c'est vrai, mais aussi collectif, communautaire. C'est pourquoi dans l'Église, nous avons quelques points de repère communs, des jours de jeûne, des jours de jeûne et d'abstinence. Et voilà pourquoi ensemble, nous voulons prier et rejeter le mal. Nous en avons besoin. Alors voyons quelle est cette, dans un deuxième temps, quelle est cette tentation, puisque saint Luc lui-même nous dit « le diable a épuisé toutes les tentations ». Effectivement, les trois tentations que connaît le Christ sont les trois tentations de l'homme. Il semble ne pas y en avoir d'autres, et c'est déjà une bonne nouvelle, c'est circonscrit. Tout d'abord, la première, c'est la tentation charnelle. Effectivement, le Seigneur a faim. Quand on jeûne sévèrement, on a faim, et le diable va lui proposer tout bonnement, sachant qu'il est Dieu, le provoquant sur cette question, lui dire, eh bien, voilà, tu as faim, il y a une solution toute trouvée, transforme ces pierres en pain. Vous voyez, le diable a la foi, hélas, et le diable sait de quoi le Seigneur est capable. Alors il lui propose de se repaître immédiatement, eh bien, de quelque chose de matériel. Nous aussi, nous avons souvent cette tentation charnelle. Elle peut être de tous ordres, elle peut être d'ordre matériel, de l'argent, de tous ses plaisirs, de tout ce qu'on peut se procurer, entasser chez soi. Voilà qui, en fait, ne satisfait pas le cœur, et c'est ce que lui dit le Seigneur. Il va lui répondre simplement, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Peut-être que vous connaissez la deuxième partie de la citation, que ne dit pas ici le Seigneur, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Cette parole, c'est le Christ. Vous êtes venu ce soir vous en nourrir, vous auriez pu vous repaître, que sais-je, de quelconque plaisir, d'un McDonald's, d'un jeu télévisé quelconque, enfin de toute chose, et vous êtes venu vous repaître de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, vous l'avez entendue, vous allez la manger, cette parole, c'est le Christ vraiment vivant. Alors le diable ne s'en tient pas à cette première concupiscence, c'est comme ça que ça s'appelle techniquement, c'est-à-dire la faiblesse dans la nature humaine qui nous incline au mal, cette première concupiscence qui est charnelle. Il l'amène, et en fait je suis l'homélie de saint Grégoire en la matière, saint Grégoire le Grand, il l'amène à une concupiscence plus haute et donc plus grave, la concupiscence des yeux, celle du pouvoir. Et il lui montre tous les royaumes, en un instant, en un éclair. Lui qui, bien sûr, comme tout bon menteur, dit une part de vérité, il est le prince de ce monde, il l'est temporairement, il l'est de manière limitée, mais il est le prince de ce monde. Alors il a le pouvoir de montrer tous les royaumes. Les royaumes, ce sont tous les pouvoirs, tous les pouvoirs que l'on peut exercer pour enfermer, pour posséder les autres, c'est dans la famille, dans la paroisse, dans l'église, dans la société, dans les entreprises, bref, dans toute relation, il y a une manière de mettre la main et d'enfermer les autres, de posséder leur capacité d'aller et venir, sinon leur capacité de vivre et d'aimer. Et c'est un pouvoir très grand que l'homme pourrait exercer et que nous sommes parfois tentés d'exercer. La tentation, la concupiscence intellectuelle, celle des yeux. Le Seigneur va lui répondre très simplement, puisque la condition pour posséder le monde, c'est en quelque sorte de l'adorer, c'est de transformer ce pouvoir éphémère en quelque chose d'éternel. Et le Seigneur répond simplement la parole de l'Écriture, il est écrit, c'est devant Dieu seul que tu te prosterneras. Oui, les chrétiens, plus que d'autres encore, doivent être des hommes libres, c'est-à-dire que nous ne mettons à genoux devant rien ni personne, pas plus les juifs d'ailleurs à l'époque du Christ que nous aujourd'hui, nous ne voulons adorer que Dieu et Dieu seul. Alors le diable ne désempare pas et l'amène vers la plus haute des tentations, la plus profonde, la plus grave des concupiscences, la concupiscence spirituelle. Il l'amène au sommet du temple et il va l'amener à tenter Dieu. En plus, en lui citant l'Écriture, le diable a bien compris qu'il ne discutait pas, mais qu'il citait l'Écriture. Le diable aussi connaît l'Écriture et il lui cite deux passages d'un psaume. Il lui dit, eh bien, il donnera ordre à tes anges de te garder pour empêcher que tu ne heurtes une pierre. Alors, c'est bien ce qui est dit dans l'Écriture, réalise-le. Le Seigneur, dans toute son œuvre sur terre, a réalisé beaucoup de miracles. Mais tous les miracles qu'il a réalisés ont été pour quelqu'un d'autre que lui. Et toujours pour manifester aux autres la gloire de Dieu. Ici, le diable lui propose de réaliser un miracle pour lui et pour sa propre gloire. Et peut-être aussi à la demande de l'adversaire, afin qu'il en soit glorifié lui-même. Le Seigneur refuse évidemment ce piège ultime de l'orgueil, qui, comme tout piège, est basé sur quelque chose de vrai, et il lui dit qu'on ne met pas le Seigneur à l'épreuve. Saint Luc nous dit alors que voilà toutes les concupiscences d'épuiser. Nous avons la carte des tentations possibles dans notre vie. Vous pouvez les regarder vite fait avec quelques péchés caractéristiques dans chacun. C'est plutôt rassurant de savoir qu'en fait, il n'y a pas une multiplicité de péchés possibles. C'est assez limité. Je l'ai dit un jour, j'écrirai peut-être un livre sur la limitation du péché et sur l'extraordinaire infinité du bien. Quand vous lisez la vie d'un pécheur, c'est atrocement banal. Quand vous êtes confesseur, vous le savez. Vous ne pouvez jamais trop étonner un prêtre parce que, après quelques confessions et quelques examens de conscience personnels, il connaît à peu près tous les péchés possibles et imaginables. Vous pouvez toujours émerveiller tout le monde en racontant la vie d'un saint, car il n'y en a pas deux pareils. Voilà donc, mes bien chers frères, le programme qui est le nôtre, nous sortir de cette petitesse, cette étroitesse du péché et en venir aux merveilles de Dieu. Ceci, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, n'est pas qu'un combat personnel, c'est un combat communautaire. Nous répondons ainsi au malheur du monde. Rappelez-vous, dans la Genèse, au chapitre 3, l'arbre de la connaissance du mal, le fruit semblait bon à manger, c'est la concupiscence charnelle, il semblait agréable à voir, c'est la concupiscence des yeux, et désirable pour obtenir l'intelligence, c'est la concupiscence spirituelle. Ce faisant, dans les petits efforts que vous ferez, dans les petites victoires que vous prendrez, certes, vous préparerez votre âme à recevoir la grâce de Pâques, mais plus encore, vous préparerez l'Église et le monde à briller vraiment de la présence du Christ. Le combat auquel nous sommes conviés, mes bien chers frères, n'est pas un combat intérieur seulement, il est intérieur pour être appelé à manifester la gloire de Dieu. Amen.